RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagrin et Guillermo Bravo.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Extérieure d'Espagne. Rebonjour, vous êtes à l'écoute de l'émission en français de Radio Extérieure d'Espagne. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le travail d'un des meilleurs photographes de sport à moins de 100 jours des Jeux Olympiques, Philippe Milreau. Photographe bien sûr pour le Comité National Olympique et sportif français. Il a commencé sa carrière en 1992 pour les Jeux Olympiques de Barcelone.
Barcelone, moi c'était mes premiers Jeux d'été. Pour moi c'était un rêve parce que, pour rien vous cacher, quand eut lieu la cérémonie d'ouverture, j'ai pleuré. Tellement j'étais content d'être là, c'était mon rêve, moi, de faire les Jeux comme ça en tant que photographe.
Vous écoutez les Champs-Élysées de Pamplemousse.
À la technique, Javier López et au micro et dans vos oreilles, Inés Azagra, Guillermo Bravo et Oliver Braque. À la production, Cristina Dorado.
Passons au journal de l'actu sur Radio Extérieure Espagne.
Où que vous soyez.
Après plusieurs jours de tensions politiques au sujet de l'accusation de corruption à la femme du Premier ministre Pedro Sánchez, ce dernier a libéré son agenda jusqu'à lundi.
Les premières 24 heures sans nouvelles ni photos de Sánchez se sont écoulées et les médias espagnols coïncident sur le fait que c'est une situation tout à fait exceptionnelle. L'opposition a critiqué durement cette décision du Premier ministre et il considère qu'il s'agit d'une stratégie politique pour renforcer son image et sa gestion. Le Parti populaire a proposé Alberto Núñez Feijóo comme alternative dans le cas où la démission de Sánchez terminerait par arriver.
L'Espagne accepte de livrer des missiles Patriot à l'Ukraine.
Défense ne livrera pas les lanceurs qui sont nécessaires pour l'utilisation des munitions, mais cédera à l'armée ukrainienne plusieurs unités de projectiles.
Le premier trimestre de l'année se ferme avec des mauvais chiffres pour le marché du travail.
Le chômage monte en Espagne et il y a 140 000 postes de travail qui ont disparu. Le chômage augmente de 117 000 personnes et le taux augmente jusqu'au 12,29%.
L'émission en français. L'actualité du monde hispanophone en langue française.
Bonjour Inès, bonjour Guillermo. Est-ce que vous reconnaissez cette voix?
Je suis une madrilène originaire du village de Alcobendas, qui enfin avait 1000 rêves en tête.
Alors pour te dire, dans un premier temps, j'aurais jamais reconnu cette voix, mais je sais à qui elle appartient. Mais c'est un peu triché parce que tu me l'avais montré l'autre jour.
Et toi Guillermo?
J'ai quelques idées en tête, mais je ne sais pas, dis-le nous toi-même.
On va continuer dans les mystères, mais je vais vous les dévoiler tout de suite, parce que ce dimanche, c'est l'anniversaire de peut-être la plus internationale des actrices espagnoles. Aujourd'hui, on parle cinéma au cabinet de l'histoire.
Passons au cabinet de l'histoire. Installez-vous.
Penélope Cruz est née à Alcobendas, près de Madrid, le 28 avril 1974. Elle s'intéresse très tôt à la danse, à la musique, mais surtout au cinéma. Après avoir vu le film Atame, dirigé par Pedro Almodóvar, elle commence à rêver d'apparaître dans un de ses films. Elle accomplira ce rêve en 1997, mais son rendez-vous au cinéma vient cependant de la main de Ramón Ramón.
Déjame que te ayude.
Déjame en paz.
Pero vale, te dejaré. Te dejaré si ves una foto mía.
¿Qué foto?
Párate.
Le film est dirigé par Biras Luna, qui la fera être nominée pour la première fois au prix Goya.
Ese soy yo.
Bueno, pues ya te he visto.
¿Qué pasa? ¿No te ha gustado?
Eres un guarro.
Una jamona.
Son prochain hit est le film Belle Époque, dirigé par Fernando Trueba et qui remportera l'Oscar en 1993 au meilleur film international et qui sera lauréat d'une 9 prix Goya. Penélope Cruz y interprète Luz, la fille d'un peintre qui, dans les premiers jours de la Deuxième République espagnole, accueille un déserteur chez soi.
Este chico que viene a buscar a papá.
Buenas tardes. No me gustaría molestar.
No, si no es molestia. Pasa, pasa.
Elle interprète aussi la protagoniste de La Niña de tus ojos, également dirigée par Fernando Trueba, et qui raconte l'histoire d'un groupe de réalisateurs espagnols qui sont invités en Allemagne par les nazis pour filmer un drame musical interprété par des prisonniers des camps de concentration.
Venga, a parmear todo el mundo.
Clutch.
Así.
Clutch.
Son rôle dans ce film l'a fait remporter les Goya à la meilleure actrice et la nomination dans cette même catégorie pour le prix du cinéma européen.
El Goya a la mejor interpretación femenina protagonista este año es para Penélope Cruz.
Nous sommes presque au point d'éclat de son carrière à l'étranger. Des films comme Todo sobre mi madre ouvrent de plus en plus la voie à son popularité aux États-Unis. Et à partir des années 2000, elle a commencé à travailler aux côtés des acteurs et des actrices américains comme Halle Berry ou Nicolas Cage. Vanilla Sky, protagonisé avec Tom Cruise et Cameron Diaz, en est un bon exemple.
Well, this is where I leave you.
Wait, I'll walk you to your door.
No, I live just around the corner.
I've got my bike here.
I'd rather walk.
Don't be a drag. Can't you see she wants to go on her own? Shut up, you're drunk.
En 2006, elle accomplit finalement son rêve de protagoniser un film de Pedro Almodóvar grâce à Volver. De la comédie, de la tragédie et du surréalisme se fondent ces films inspirés de la Mancha natale du directeur espagnol et qui racontent l'histoire de trois générations de femmes, interprétées non pas seulement par Penélope Cruz, qui interprète les personnages de Raimunda, mais aussi par d'autres chefs de file du cinéma espagnol comme Carmen Maura ou Blanca Portillo.
No me mientas más. Ya sé que lo haces por mí, pero no me mientas, por favor.
No te estoy mintiendo. Paco te reconoció como hija, pero sabía que no era tu padre biológico.
Pero entonces me estaba diciendo la verdad.
Sí.
Le succès du film est énorme. 4 prix du cinéma européen, 5 Goya et pour la première fois, une Espagnole est nominée au Oscar de la meilleure actrice. Voici le moment où elle reçoit le prix Goya.
Penélope Cruz, bueno, por volver. Penélope Cruz, Raimunda ha ganado el Goya.
Juan Antonio, your whole way of seeing is mine.
Well, I'm not saying that you were not influential.
Influential.
Yes.
Influential.
Yes, influential, but I'm part to say that I told you.
S'il y a un film qui l'a fait connu à l'étranger, c'est sans doute Vicky Cristina Barcelona, que nous venons d'écouter, dirigé par Woody Allen et qu'elle a protagonisé avec Rebecca Hall, Scarlett Johansson et Javier Bardem.
Me gustas tanto como el jamón.
Déjame en paz.
La chimie entre les deux acteurs vient de très loin. Depuis qu'ils se sont rencontrés devant les caméras pour la première fois dans Ramon Ramon, ils ont paru ensemble sur les grands écrans, pas mal de fois. Malgré sa popularité à Hollywood, elle n'a pas oublié ses racines. Elle est toujours une chica Almodóvar comme dans Madres Paralelas, le dernier film d'Almodóvar paru en 2021.
Analizar la situación aquí, juntas. Como dos seres adultos. Si lo más difícil era decírtelo.
Avec une trajectoire de plus de 30 ans et plus de 150 films, nous espérons qu'elle continue de représenter les meilleurs de notre cinéma à l'étranger. Bon anif pe.
Je me trouve ici en compagnie de Philippe Milro, une journée ensoleillée à Madrid. Bienvenue à Madrid, ce n'est pas la première fois, il me semble.
Non, ce n'est pas la première fois. Je ne me rappelle pas du tout de la ville parce que j'avais couvert les championnats d'Europe de natation en 2004 à Madrid. Mais ce dont je me rappelle, c'est la piscine. Et puis sinon, non, je ne me rappelle pas. Pourtant, on a très probablement dû faire des restos, des soirées, des choses comme ça, mais je ne me rappelle de rien. Je me rappelle que de la piscine, en fait, donc voilà.
Alors, on va commencer par le principio, comme on dit en espagnol, depuis le début. Qu'est-ce qui vous emmène à la photographie de sport ?
Alors, ce qui m'emmène à la photographie de sport, c'est que j'étais un passionné de sport en général quand j'étais gamin, de tennis en particulier, parce qu'à l'époque, j'avais 11-12 ans et je jouais beaucoup, beaucoup au tennis. J'avais commencé par le foot, mais j'étais nul. Donc, en fait, j'ai fait du tennis et j'étais abonné à une revue à l'époque qui s'appelait Tennis Magazine, qui était la première revue française qui avait le monopole pratiquement de la presse tennistique. Et j'avais tous les posters d'un photographe qui travaillait pour ce magazine dans ma chambre. J'avais, alors c'était la grande époque, c'était il y a longtemps, donc c'était la grande époque de Björn Borg, John McEnroe, Jimmy Connors, enfin tous ces gens-là. Et quand je regardais les posters, je me disais, ben, un jour, c'est moi qui ferai ces photos. Voilà, c'est passé comme ça, en fait. Voilà. C'est parti comme ça. Donc, je n'ai pas été photographe de tennis, mais j'étais photographe, voilà. Je suis photographe de sport.
Comme quoi, c'était vraiment parce que vous étiez un passionné du tennis. Ce n'était pas du tout parce que vous étiez un passionné de la photographie.
Alors, j'aimais la photographie parce que moi, j'ai eu un premier Instamatic à 12 ans. Et tout de suite, j'ai commencé à faire des photos. Ensuite, j'ai acheté un peu de matériel. J'avais mon labo photo dans ma chambre. Je développais moi-même à l'époque de l'argentique. Donc, l'argentique, c'était des pellicules qu'on mettait dans les boîtiers. Maintenant, c'est fini. Et quoique, ça revient beaucoup à la mode parce que je travaillais avec beaucoup de jeunes qui ont entre 25, 30, 20 ans. Et quand ils partent en reportage, même s'ils ne sont pas photographes, ils ont tous un petit boîtier argentique avec eux. Et c'est devenu ça redevient très à la mode, et ce qui est hyper étonnant parce que eux n'ont pas connu en fait ça, donc ils le connaissent maintenant. Nous, on a connu ça pendant très longtemps, on l'a abandonné avec plaisir, faut le dire, parce que en fait le numérique permet de faire des choses qu'on pouvait pas faire en argentique. Et c'est intéressant de voir que les jeunes reviennent à l'argentique. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, hein. Et je suis en train de faire une expo justement dans un labo à Paris, et ils ont un labo destiné qu'à l'argentique. Et ça m'a vachement surpris, en fait, parce que c'est hyper étonnant. Enfin, moi, ça m'étonne. À notre époque, ça m'étonne, quoi. Et ça marche très bien. Et je demandais à la commerciale, elle m'a dit, mais ça marche, du feu de Dieu. On vend des pellicules, on vend des appareils, et c'est marrant.
Après, ça donne une photo plus organique. Il y a des personnes qui cherchent un peu ce point, ouais, ce bruit. Enfin, après...
Le grain, la couleur. C'est vrai que tout ce qui se fait... Voilà, tout ce qui se fait en argentique, c'est vrai que c'est souvent désaturé, c'est... Ouais, il y a des trucs sympas, c'est vrai qu'il y a des trucs sympas, mais nous, si vous voulez, l'argentique, on connaissait tellement que, de toute manière, on n'a pas eu le choix, on a été obligé de passer au numérique. Donc, donc pour notre travail, surtout dans la photo de presse, où il faut que le client il ait la photo pratiquement avant qu'on l'ait faite maintenant, puisqu'on travaille surtout maintenant sur la rapidité, moins sur la qualité qu'avant. Et c'est vrai que maintenant, le numérique, ça nous a facilité quand même la chose, mais... C'est deux mondes complètement différents, et les photographes qui étaient avant ma génération, eux, ils ont connu trois périodes. Ils ont connu l'argentique, mais à la plaque, c'est-à-dire qu'ils avaient ils avaient des plaques 4-5 avec des boîtiers, je me rappelle, et ils faisaient des photos de foot, et ils avaient 6 photos à faire dans le match de foot, par exemple. Ils se mettaient près des buts et ils attendaient que ça se passe. Voilà. Maintenant, un photographe de foot, il fait moi j'en fais très peu du football, mais en général ils font 2000 photos par match.
Donc mais maintenant, il y a l'editing après aussi, il y a les délais du client.
L'editing, c'est ce qui nous le prend le plus de temps. En fait, ce n'est pas l'editing qui prend le plus de temps, c'est l'indexation. Toutes les légendes, ça nous prend beaucoup de temps, en fait. C'est ce que je prends toujours le même exemple, c'est-à-dire qu'avant le numérique, sur un Tour de France, on finissait l'étape, le mec passait la ligne, on faisait les photos du podium... On donnait nos pellicules à un motard, le motard les apportait à l'hélico partait à Paris, et nous, à 17h, on avait les doigts de pied en éventail, et on était à l'hôtel, à côté de la piscine. À 18h, on prenait l'apéro. Maintenant, c'est fini. Maintenant, vous passez la ligne, vous êtes en salle de presse, vous faites votre editing, votre indexation, vous en avez pour 2 heures, à peu près. Donc, vous rentrez à l'hôtel, il est 20h. Et donc, c'est un autre travail, en fait.
Et est-ce qu'il y a des photographes qui font des prises de vue avec des téléphones, avec des portables ?
Bien sûr. C'est pas les photographes, par exemple, sur des jeux, c'est pas les photographes accrédités. Ça, ils peuvent pas. Ils ont pas le droit. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, quand on est sur des reportages et où il y a des spectateurs, des gens, il y a des gens sans problème qui se mettent devant nous avec leur iPhone, avec leur portable, qui font des photos, qui nous gênent, mais ils en ont absolument... rien à foutre. Et ça, c'est devenu... Là, j'ai fait, par exemple, à Paris, mercredi dernier, c'était le J-100 jours, en fait. Donc, il y avait une grosse manifestation au Grand Palais éphémère à Paris. Le nombre de gens qui se mettaient devant nous pour faire des photos, c'était un truc de fou. C'est devenu compliqué. Ouais. Par contre, sur des JO, non, ils n'ont pas le droit. Et là, alors, ce qui était très étonnant, c'est que Là, j'étais aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en Corée, à Pyeongchang, là, cette année, au mois de janvier. Et c'est la première fois qu'il y avait des places réservées à côté de nous pour les influenceurs. J'avais jamais vu ça. Ça, c'est la première fois. J'ai fait des photos, d'ailleurs, parce que ça m'a tellement choqué. Et en fait, à la patinoire, par exemple, on est autour de la patinoire pour faire le patinage artistique. Et il y avait les places photos. Et à côté de nous, il y avait un carré réservé aux influenceurs qui étaient avec leur... qui faisaient comme ça.
Bon, il y a quand même des choses qui changent, bien évidemment. Donc maintenant, nous sommes à moins de 100 jours pour le début des Jeux Olympiques à Paris. Dans quel stade de préparation vous vous trouvez, le planning, et aussi savoir, parce que cette fois-ci, ça va être en France, comment vous vous sentez par rapport à ça? Je sais que vous avez beaucoup voyagé pour couvrir les Jeux Olympiques d'hiver. Comment vous vous sentez de voir peut-être le château de Versailles avec les Jeux équestres?
Ça va être sympa, mais le château de Versailles, il va être très très loin. Hein, moi, je connais un peu le terrain, si vous voulez. L'équitation, le saut d'obstacle, tout ça, ça va être magnifique. Hein. Mais bon, le château de Versailles, il est quand même très, très loin du parc où va se passer l'équitation. Vous le voyez, mais bon, vous ne voyez pas très gros. Et sinon, on prépare depuis un an déjà, parce que les Jeux Olympiques, c'est un gros truc, donc ça se prépare très en amont. Les chambres d'hôtel à réserver pour les photographes, c'est un an avant. Les parkings pour pouvoir circuler dans Paris, c'est un an avant. Donc, et puis nous, comme on est l'agence du Comité National Olympique français, on a fait tous les portraits. L'année 2023, en fait, ça a été consacré pratiquement à faire tous les portraits des athlètes qui peuvent se qualifier pour 2024, pour les JO. Donc on a fait, je pense que j'ai fait 30 000 km en voiture, parce que j'avais le studio photo, en fait, dans la voiture. On était à deux, à trois, à tourner sur ce truc. Et j'avais mis un protocole d'éclairage pour que tout soit pareil entre les photographes. Et j'ai fait 30 000 km. Parce qu'en fait, on allait où les athlètes soit s'entraînaient, soit étaient en stage, soit sur des championnats. J'ai monté des studios partout, dans des écoles, dans des mairies, dans des bars, dans des gymnases. Enfin, c'était intéressant parce que... Mais à la fin, j'en avais... Les derniers, et on a fini pratiquement. On fait des rattrapages, ce qu'on appelle des rattrapages, parce qu'il y a toujours des athlètes qui passent à travers. On fait des rattrapages, mais là, on est à l'INSEP tranquillement dans le bois de Vincennes.
Est-ce que vous allez partir en Tahiti?
Non, c'est un photographe qui partira à Tahiti. Ouais, on a un photographe qui fait que ça, qui m'avait contacté pour être accrédité, et il ne fait que du surf, en fait. Alors, il y a certains sports comme ça, en fait, où les photographes sont très, très spécialisés, en fait. Les photographes de surf ne font que du surf. Les photographes de voile ne font que de la voile. En fait, dans ces milieux sportifs, en fait, il y a quelques sports comme ça où les photographes sont vraiment très spécialisés. Nous, on fait tous les sports. Mais par contre, les photographes de voile ont leur business en voile, en fait. Donc, ils travaillent pour des partenaires, pour des choses comme ça. Ils sont tous basés soit en Bretagne, soit à Marseille. Et ils ne travaillent qu'en voile. Et les photographes de surf, c'est pareil.
Maintenant, c'est peut-être plus facile pour vous puisque c'est en France ou même pas?
Non, plus facile, non, ça sera pas plus facile parce qu'on est tellement habitué, si vous voulez, sur des jeux, on sait comment ça se passe. Ça sera pas plus facile, le seul truc, c'est qu'on prendra pas l'avion pour y aller, quoi, c'est tout. Et puis, ce qui va être très différent, c'est qu'on rentrera à la maison tous les soirs. Mais ça, c'est drôle. C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai dit, moi, on est associé à l'agence. J'ai un associé qui m'a dit, mais on va quand même pas rentrer à la maison tous les soirs. J'ai dit, si on habite Paris, on va pas prendre un hôtel pour aller dormir exprès à l'hôtel alors qu'on habite à Paris. Il me dit, ah bon, tu penses on va rentrer tous les soirs à la maison? J'ai dit, oui, ça va quand même économiser pas mal d'argent parce qu'en plus, à Paris, ils ont totalement pété les plombs au niveau des tarifs. Donc c'est un scandale. Donc ils s'en mordent les doigts parce que la moitié des hôtels sont vides parce qu'ils ont voulu gagner trop d'argent. C'est bien fait pour eux.
Quels sont les Jeux Olympiques qui vont marquer le plus dans votre carrière professionnelle?
Alors, je vais vous donner les meilleurs et les moins bons. Les meilleurs, je pense que c'est Sydney 2000, parce que Sydney 2000, c'était un endroit sublime. Le parc olympique, il était incroyable. On avait tout, pratiquement. On n'avait pas besoin de beaucoup prendre de bus, de navettes, parce que le parc olympique, il y avait pratiquement tout, le stade olympique, la piscine. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et puis l'ambiance était vraiment sympa. C'était vraiment une grosse ambiance. Et puis, c'était une époque un peu différente parce que comme c'est l'hémisphère sud, c'était en octobre, je crois. C'était le début du printemps, au début de l'été, enfin, je ne sais plus. Mais c'était vraiment sympa. Les pires, alors en jeu d'été, les pires Atlanta, 96, parce que c'est l'Amérique et qu'ils se croient tellement tout puissants qu'ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient, quoi. Et puis après, en jeu d'hiver, les plus beaux, Lillehammer, en 1994, parce que les Norvégiens, c'est un peuple. Ils sont faits pour ça, voilà. C'est vraiment, ils sont faits pour recevoir des manifestations comme ça. Ils ont la neige dans le sang, voilà, c'est vraiment... Et les pires, c'est les derniers, à Pékin. Parce que Pékin, avec le Covid, le froid, on n'a jamais eu aussi froid de ma vie. Franchement, oui, moins 27, enfin, c'était une horreur. Mais on avait, en fait, il y a des moments, je me rappelle très bien, il y a des moments sur du biathlon. En plus, il y avait un vent du nord, mais c'était affreux. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie, c'était affreux. Et pourtant, on est bien équipé normalement quand on... Et on n'arrivait plus à transmettre les images. J'arrivais plus à appuyer sur les boutons des boîtiers pour transmettre tellement il faisait froid. C'était l'horreur. Et puis le Covid là-dessus, complètement malade. Enfin, c'est... Une anecdote, c'est que dans l'hôtel où on était, quand on est arrivé, ils étaient tous en combinaison blanche, comme des cosmonautes, tous. Hein. Ils avaient tellement peur. Et ils se mettaient du produit sur les combinaisons, comme ça. Ils en mettaient partout dans l'hôtel et tout. Et ils en ont mis... dans les ascenseurs, ils ont mis partout dans les ascenseurs, et il y a un caméraman, je crois, ou un journaliste, je crois que c'est un caméraman de France Télévisions qui est arrivé, il a glissé dans l'ascenseur, il est reparti en France direct. Exceptionnel. Ils en mettaient partout. C'était quand on arrive à l'aéroport, j'ai cru que c'était rencontre du troisième type, quoi. Ils étaient tous en blanc, on n'avait que ça. On est arrivé dans l'aéroport, il était désert, et il n'y avait que des gens comme ça en blanc. C'était très bizarre, ouais.
Une de vos photographies les plus connues, c'est celle prise à Barcelone, ici en Espagne, en 1992. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette photo? On voit la Sagrada Familia en arrière-plan, on voit une nageuse, c'était la plongée, ouais. Il me semble. Ouais, c'était encore le temps où c'était en extérieur, maintenant oui. Ces épreuves sont faites en intérieur la plupart du temps. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette photo et des différences à maintenant ?
Barcelone, moi, c'était mes premiers Jeux d'été. Pour moi, c'était un rêve parce que, pour rien vous cacher, quand eut lieu la cérémonie d'ouverture, j'ai pleuré tellement j'étais content d'être là. C'était mon rêve, moi, de faire les Jeux comme ça en tant que photographe. Et cette photo-là, elle fait partie d'une série. C'était vraiment quand on est arrivé dans cette piscine... On est monté, en fait c'est une photo qui est faite des tribunes, on est monté dans les tribunes, et puis on a vu ce plongeoir avec Barcelone tout derrière, la Sagrada Familia à droite, on s'est dit mais le spot il est... Et en fait là, en tant que photographe, vous n'avez même pas grand chose à faire, c'est-à-dire que vous êtes la photo de sport, vous êtes spectateur, vous n'êtes pas acteur, hein. Donc vous regardez et vous dites waouh. Et en fait, vous attendez que ça se passe, vous prenez le plongeon. Bon, là, les boîtiers étaient un peu moins performants, donc on avait moins d'images par seconde. Mais c'est la meilleure photo de la série, parce que le geste de la plongeuse est beau. Et derrière, c'est... Voilà, et elle est beaucoup plus belle en noir et blanc. En fait, cette photo, elle a été prise en couleur. Hein. Ouais, cette photo, elle a été prise en couleur, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas du tout sur les jeux, on ne fait pas du tout de noir et blanc, ça n'intéresse plus personne. Et en fait, cette photo-là est beaucoup plus belle en noir et blanc qu'en couleur. Et c'est une photo qui est prise au format 24-36, donc le format habituel d'une photo, et que j'ai recadré en panoramique, parce qu'elle est beaucoup plus belle en panoramique, beaucoup plus forte, en fait.
Ouais. Je voulais vous demander, justement, par rapport aux gestes, ça m'intéresse beaucoup, vous, en tant que photographe, la photo de sport, tout est par rapport aux gestes, les gestes perdus, les gestes qui sont là. Après, facilement, tu as des grimaces, tu as des têtes un peu bizarres. Comment vous faites pour avoir un geste qui fonctionne et l'anatomie aussi du sport, du geste dans le sport? Et est-ce qu'il y a un sport que vous aimez le plus photographier?
Alors ouais, le geste sportif, en fait, quand vous avez des sportifs de haut niveau, ils perfectionnent leur geste à longueur d'année. C'est-à-dire que en fait, le bon geste, ils le connaissent. Donc si vous voulez, par exemple, quelqu'un qui fait du 110 mètres haies, quand il passe la haie, normalement il doit avoir un geste parfait, parce que si le geste n'est pas parfait, ben, il ira moins vite. Donc, et nous on est là justement pour arrêter à un moment donné ce geste et choisir le meilleur moment du geste, en fait, parce que tout n'est pas beau dans le geste. En fait, il y a des Il y a des athlètes qui sont efficaces, mais qui n'ont pas des très beaux gestes. Par exemple, vous prenez Mondo Duplantis à la perche. Il est hyper efficace, mais son geste n'est pas très esthétique. Alors qu'il y a des gens qui passent la barre au niveau de la perche, qui ont des gestes parfaits. Donc c'est après, il faut connaître aussi le sport, parce que si vous ne connaissez pas le sport, ben vous ne saurez pas quand le geste est beau. Vous apprenez à force de faire des compétitions, mais c'est vrai qu'il faut, en général, il faut plutôt connaître le sport. Ouais. Et il y a des sports, justement, l'athlétisme, par exemple, c'est tellement différent d'un lanceur de disque. Par exemple, le geste du lancer de disque est très beau, c'est magnifique. Après, vous avez la perche, après, vous avez même la course. Il y a des gens qui ont des courses sublimes. Marie-Jo Pérec, à sa grande époque, on l'appelait la gazelle, elle avait une foulée sublime. Et quand elle courait, si vous la shootiez au bon moment, elle avait un geste parfait. Voilà. Et c'est vrai que c'est. Mais il faut connaître un peu le sport quand même. Quand vous arrivez sur un sport que vous n'avez jamais fait, vous apprenez au départ. Et puis après, c'est comme tout. Hein.
Il me semble que le sport que vous aimez le moins, c'est le volleyball.
Oui, c'est le volleyball. En fait, ce n'est pas que j'aime le moins, c'est que c'est très difficile à photographier. Pour avoir une très belle photo de volley, c'est très compliqué. Parce que, en fait, dans un match de volley, c'est toujours pareil. Il ne se passe pas énormément de choses, si vous voulez. C'est contre, c'est smash. Bon, à la belle photo, c'est quand un défenseur va chercher une balle en plongeant, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est très... Et en fait, en sport, vous apercevez souvent que vous faites des très belles photos, alors très graphiques, hein. Vous faites des très belles photos vues d'en haut. Moi, j'ai fait pratiquement plein de sports vues d'en haut, en fait. Et c'est vraiment... C'est là que vous faites de très, très belles photos, très graphiques, en fait, avec des fonds, des lignes, des... En 1994, je crois, les championnats d'Europe à Helsinki, on avait le droit de monter sur le toit de la tribune, de la tribune principale du stade, et en se penchant, on avait vu sur la ligne d'arrivée, en fait. Sur la ligne d'arrivée, j'ai passé 75% de mon temps sur le toit. Parce qu'à l'époque, j'avais pas d'impératif, on était là pour faire de la belle image. Ce qu'on appelle de la belle image, et j'ai dû passer un temps sur ce toit, parce que c'était magnifique. Les arrivées, les gens qui s'écroulent, qui regardent comme ça le ciel, en fait, c'est vraiment sympa, quoi.
Quels sont les impératifs maintenant ?
Le seul. L'impératif le plus important, c'est de travailler vite et d'envoyer vite les photos. Voilà, c'est tout. Elles peuvent être moins bonnes qu'avant, mais il faut l'envoyer vite. En fait, le plus important, c'est d'être rapide. C'est-à-dire que maintenant, on transmet directement de nos boîtiers sur un serveur et les clients vont chercher des photos. Malheureusement, nous, notre métier, c'est devenu travailler essentiellement pour les réseaux sociaux. C'est pas franchement. Et puis aussi pour les sites internet, des journaux, des choses comme ça qui servent beaucoup des images. Mais c'est vrai que... Malheureusement, c'est ça, c'est d'être le plus rapide possible.
Merci Philippe Millerot pour votre temps. Merci Oliver, à très bientôt à tous et à toutes. Merci à Jeanne et à Isabella et bien sûr à mon cher collègue d'émission, Guillermo.
Merci à toi Inès.
Ciao.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi ciel, sentir. febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente te marchita la nieve del tiempo, platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.